France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Partons à la recherche du son des troubadours, une histoire tout en musique dans laquelle nous croisons des artistes, des poètes et notamment Guillaume, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine et de Gascogne, le grand-père d'Aliénor. Mais nous croisons aussi Bernard de Ventadour, Mercabru, Arnaud Daniel, la comtesse de Die, avec une vielle, avec une harpe, avec pourquoi pas un psaltérion et une cornemuse de Gascogne. Comment, à partir des archives et avec beaucoup de talent, rendre accessible la musique qui était jouée il y a plus de 800 ans.
Au coin d'une rue à Paris, c'est nécessaire un troubadour, parce que ça chante les troubadours, ça chante le vin, ça chante l'amour. Et quand ça chante, ça sourit. Il ne faudrait pas que Paris soit un jour privé de chansons, car ça donnerait l'impression qu'on a voulu le priver de dessert. Voilà pourquoi c'est nécessaire un troubadour au coin d'une rue à Paris.
La chanson du trou vert dans le film Si Paris nous était conté de Sacha Guitry en 1956, avec comme trou vert Gérard Philippe, rien de moins. Bonjour Cathy Bernard.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes maîtresse de conférence d'Occitan à l'université Bordeaux-Montaigne. Et bonjour Xavier Terraza.
Bonjour Xavier Mauduit.
Musicien, chercheur, vous êtes spécialisé dans l'interprétation des répertoires du Moyen-Âge occidental. Et nous allons avec vous deux explorer ce son, ces sons venus du passé. Juste, Cathy Bernard, peut-être une précision, troubadour, trou vert, la différence?
Un troubadour est un poète dont la langue d'expression est la langue d'oc.
Au sud,
et qui donc compose également ses mélodies. Le trou vert peut adopter la même définition. Enfin, on peut adopter la même définition pour le trou vert, mais il compose, lui, en langue d'Ovil, en ancien français.
Voilà, c'est une différence de langue. Une fois que nous avons dit ça, pour définir qui sont ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a ici toute une histoire à écrire, Xavier Terraza, si je vous demande, mais qu'est-ce qu'un troubadour? Comment le définissez-vous?
Alors, le troubadour, eh bien, on doit se référer au départ aux sources, et c'est là où le sujet devient complexe, puisque, vous le savez comme moi, plus on s'éloigne dans le temps, eh bien, moins il y a de sources, et malheureusement, on a très peu de sources sur ces fameux troubadours et sur leur mode d'expression également, quoi. Donc on sait que ce sont souvent des seigneurs, hein, des gens certainement qui ont eu accès à une forme d'éducation et qui donc vont effectivement composer à la fois la poésie et la musique.
Oui, parce que vous parlez de sources tout de suite et vous avez raison, d'ailleurs merci mille fois, dans le cours de l'histoire, l'attention portée aux sources, aux archives, mais c'est ce qui fait le fondement même de la démarche de l'historienne et de l'historien. Troubadours d'Aliénor, c'est l'ouvrage que vous avez composé tous les deux, Cathy Bernard, Xavier Terraza. L'Aquitaine, berceau de la chanson courtoise occitane au XIIe siècle, avec alors beaucoup de sources, et elles sont sublimes, hein, puisque nous sommes ici avec des manuscrits enluminés. Mais ce n'est pas tout, hein, Cathy Bernard, de réfléchir aux sources. J'ai dit imprimées, quelle honte, manuscrites. C'est pas tout de réfléchir aux sources qui laissent l'évocation de ces gens-là, parce que le son lui-même risque toujours de nous échapper. Qu'est-ce que l'on trouve dans ces documents qui nous met sur la voie du son des troubadours?
Comme l'a dit Xavier, il y a parfois, quand on a la chance, quelques partitions qui nous restent. Et pour ce qui est des sons, c'est un travail de linguiste. C'est un travail de phonéticien. Il faut travailler l'évolution de la langue avec les choses que nous avons. Donc, ma partie, c'est pas tellement la linguistique, c'est vraiment les textes et la compréhension des textes. Mais tout un travail est fait et beaucoup de mes collègues donc ont proposé des manières de restituer ou de reconstruire la prononciation de l'occitan médiéval. En partant, par exemple, de la façon dont l'occitan est prononcé aujourd'hui, et puis en faisant remonter tout cela jusqu'au latin. Donc c'est un vrai travail, une spécialité en soi, hein, cette restitution de la langue ancienne de la langue du Moyen-Âge.
Ben oui, parce que nous pensons à des instruments quand il s'agit de musique, mais peut-être que le premier instrument, c'est le corps humain avec cette langue portée. Et encore faut-il savoir comment étaient prononcés ces mots. C'est tout ce travail-là qu'il est nécessaire de faire, hein, Xavier Terraza, retrouver déjà cette sonorité par la prononciation.
Oui, alors il y a la sonorité, il y a les attitudes, il y a le rapport au temps, et puis il y a le rapport aussi au bain culturel, c'est-à-dire ce qu'on a beaucoup perdu. On essaye tous, hein, que ce soit, on est un certain nombre bien sûr à proposer des restitutions, donc des interprétations, hein, de ces troubadours, mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est toute cette finesse de compréhension, à la fois dans les textes, toutes les allusions qui sont certainement... Il y a certains chercheurs qui les mettent en lumière, certaines, mais qui sont perdues, toutes ces citations musicales également, qui doivent faire réagir, et toute cette subtilité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interprète cela, eh bien, il y a quand même un énorme pan... qui reste obscur. D'où l'idée de cet ouvrage, de vraiment mettre en regard, sur une dizaine de pièces seulement, mais de mettre en regard le texte occitan, la traduction poétique proposée par Cathy Bernard, et puis l'interprétation donc réalisée par le collectif que nous avons réuni.
Oui, c'est un collectif qui se construit de quelle manière ?
Alors, c'est un collectif déjà qui est né par la volonté justement de... ou plutôt par le constat que, de toute manière, effectivement, il y a autant d'interprétations qu'il y a d'interprètes aujourd'hui, puisqu'on vient de le dire, on a malheureusement très peu d'informations quant à l'interprétation. Et il nous semblait, alors je dis nous, c'était avec mes deux collègues de l'ensemble La Flamma, qui sont Margot Zubeldia et David Zubeldia, eh bien, il nous semblait opportun d'inviter d'autres personnes que nous apprécions, mais avec des couleurs plutôt différentes, en fait, avec une habitude, une expérience de l'interprétation. Et l'idée, justement, c'était de montrer à quel point il peut y avoir, évidemment, des interprétations différentes, donc on peut dire riches.
Oui, ce sont des propositions ici et qui nous parlent vraiment, parce que Troubadour d'Aliénor, c'est un univers entier qui s'ouvre à nous, Cathy Bernard, qui se développe dans un contexte particulier. Si nous voulons donner un univers chronologique, nous sommes à quel moment? Au XIIe siècle?
Oui, nous sommes au XIIe siècle, et puis c'est vraiment une commande que Xavier m'a faite. Et il m'a demandé de faire avec eux une sélection qui pourrait rendre compte du paysage poétique qu'a pu côtoyer Aliénor, mais pas seulement Aliénor, aussi certains de sa famille, son lignage. Donc on est parti de son grand-père, il est difficile de passer à côté de lui, hein, de ce grand poète et de ce grand troubadour. Et puis on s'est arrêté à Richard Cœur de Lion. Symboliquement, on s'est arrêté à la chanson de Golsem Faidit qui chante la mort de Richard, qui est destiné donc à rendre hommage à ce personnage et à accompagner ce personnage en paradis. Hein, c'est ça le genre de la complainte. Ça forge un portrait amélioratif de la personne disparue en ce monde. Et puis, ça a pour but de prier et d'accompagner la personne disparue dans l'autre monde.
Avec ici des histoires racontées, des personnages également. Aliénor d'Aquitaine au centre de tout cela. Et vous avez évoqué Richard Cœur de Lion, donc son fils. Mais si on remonte la généalogie, il y a celui que vous venez de citer. C'est le Guillaume, là, duc d'Aquitaine, duc de Gascogne, comte de Poitiers, ce qui n'est pas rien. Oui. Guillaume IX. Poète lui aussi.
Farai un vers de Dregni Yen, non de mi ni d'autra gen, non d'amour ni de juven, ni de renau, che nans fu truba s'endurmen, su su scivau. Nu sa yen caloram fuinats, nu sui allegres ni irats. Nu sui estrains, ni sui privats, ni nun pues cau, che nasi fui de nueits fadats, sub rin pues chau.
Troubadour d'Aliénor, l'ouvrage est accompagné d'un CD. Donc c'est quand même pratique pour entendre ce que l'on lit. Et ici, la construction est très claire. Hein. La présentation de la personne, le texte, la versification et la traduction, la musique également, et ça c'est toute la question. Et puis le texte lui-même, avec sa traduction, de façon à rendre le texte accessible. C'est étonnant hein, d'imaginer le duc d'Aquitaine, poète majeur en son temps. On peut considérer que c'est, alors si ce n'est le premier, au moins l'un des premiers que l'on peut qualifier de troubadour.
Ben, disons que l'expression consacrée, quand on parle de lui, c'est le premier troubadour connu, c'est-à-dire le premier troubadour dont on connaît les textes, puisqu'ils ont été transcrits, puisqu'on en a la trace. Et de façon contemporaine au duc d'Aquitaine, on peut aussi citer Eble II de Vintadour, hein, le vicomte de Vintadour, qui est qualifié de chanteur, mais aucun texte signé d'Eble de Vintadour, en tout cas relié à ce nom, n'a été conservé dans les manuscrits. Voilà, des hypothèses sont avancées pour essayer de voir si, quand dans les noms conservés, il n'y aurait pas la personne d'Eble de Vintadour, mais en tout cas, Eble de Vintadour n'est pas répertorié comme un nom de troubadour.
Au moment d'écrire la musique hein, sur cette période, on l'entend bien. La mention d'une personne qui peut être qualifiée de troubadour ne nous dit pas plus que cela. Et on ne sait pas du tout ce qui était chanté, s'il y a juste la mention.
En tout cas, il semblerait qu'Eble de Vintadour ait été vraiment un troubadour, et un troubadour reconnu, puisque certains autres troubadours le citent. Mais malheureusement, on ne sait pas quelle fut en toute certitude sa production. Et bon, pour connaître les troubadours, c'est en vérité très difficile. Pour Guillaume d'Aquitaine, c'est plus facile parce que c'est une grande figure politique. Donc, nous n'avons pas que ses chansons ou sa vida, hein, sa biographie, on va dire médiévale, sa biographie poétique. On a aussi d'autres sources. Mais pour d'autres troubadours, c'est plus compliqué, oui.
On a le nom, ça suffit pas. Voilà. Mais même à partir du moment, Xavier Terrazas, où vous avez le nom d'un troubadour et quelques textes, dès lors, comment s'en emparer? Alors ici, ce que nous avons entendu, c'est une diction chantée, c'est la prononciation mélodieuse. L'idée de musique vient après, mais c'est très complexe ici de mettre de la musique s'il n'y a aucune partition.
Et oui, c'est toute la gageure, c'est qu'ici, par exemple, on rencontre fréquemment dans les textes, effectivement, le fait que le troubadour associe les mots au son. Donc on pense vraiment, je dis bien on pense, que c'est indissociable. Cependant, nous justement, puisque le doute est permis, et pourquoi ne pas non plus déclamer, comme on vient de l'entendre, cette poésie, tiens, j'en profite pour dire que c'est Pascal Caumont qui déclamait cette chanson, eh bien, on a trouvé opportun sur deux pièces justement de proposer également une déclamation, voilà. Et la déclamation ici, elle est plutôt intérieure, c'est-à-dire que on peut aussi considérer, c'est l'un des axes du disque, c'est que on peut s'adresser à un public, mais on peut s'adresser aussi, en fait, à soi-même, parce qu'on est en train de composer, on est en train de le maturer, on est en train de l'apprendre. Est-ce qu'on l'écrivait? On n'a aucune certitude là-dessus. Donc ça veut dire que tout ça, on le mémorise, on le fait fructifier. Et donc voilà. Et donc il y a certaines chansons comme ça qui essayent qui proposent en tout cas, voilà, ce paysage intérieur, quoi.
Et ce paysage intérieur est en écho à un paysage social aussi. Parce que quand nous entendons les noms qui sont évoqués ici pour les troubadours, et notamment Guillaume, duc d'Aquitaine, bon, nous ne sommes pas dans l'idée du saltimbanque en marge. On est vraiment au cœur même du pouvoir. Ces troubadours, ce sont des gens lettrés, qui ne sont pas des clercs. J'ai l'impression, hein, on en trouve des clercs qui peuvent chanter comme ça. Parce que la musique religieuse, c'est encore autre chose.
En fait, ce sont vraiment des laïcs la plupart du temps. Après, il y a vraiment, vraiment des les troubadours occupent différentes strates de la société. Mais effectivement, on trouve dans la sélection que nous avons faite, par exemple, nous avons donc Guillaume d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor, Geoffrey Rudel et Bertrand de Born, qui sont de la noblesse. Rigaud de Barbezieux l'est également, mais il est dans une, c'est un vavasseur, c'est un arrière-vassal. Et puis, nous avons des personnalités un peu étranges, en tout cas restées mystérieuses, Cercamont et Marc Abru. Mais leur poésie montre un raffinement de pensée et une grande culture qui, bien que leur nom laisse supposer que peut-être ils n'étaient pas de la noblesse, en tout cas, leur production conservée laisse aussi supposer qu'ils ont acquis un savoir. Une hypothèse, d'ailleurs, serait de considérer que sous ces noms se cachent peut-être des personnes de la noblesse, on n'en sait rien. Mais enfin, il semblerait que non. Et ensuite, nous avons par exemple un moine, le moine de Montaudon, qui a oscillé entre le cloître et la cour. Et là, vous voyez,
oui, voilà. On trouve un peu tout ce panorama et nous saisissons combien il est difficile, hein, entre les sources parcellaires qu'il faut traquer, qu'il faut chercher, et puis ce monde qui, par contre, a un pivot autour duquel il se construit, c'est la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est pour ça que Troubadours d'Aliénor, on comprend très bien le fonctionnement. Ce n'est pas elle seule, c'est elle et son temps, elle et sa famille, avec une existence, nous le savons, pour Aliénor d'Aquitaine, absolument fascinante.
Avez-vous entendu la chanson ?
Une partie.
Elle fut écrite par mon grand-père. Il était poète.
Je connais ces chansons.
Oh, vous êtes donc un homme assez instruit.
Je savais que vous reviendriez ici et je vous ai attendu.
Henri Plantagenet. Pourquoi vous nomme-t-on ainsi?
Mon père, quand il est à cheval, porte un brin de genêt Plantagenesta.
Oui, c'est vrai. Je vous ai vu arriver. J'ai regardé du haut de la tour en entendant vos chevaux. Miséricordieux Seigneur, comme je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir.
Pourquoi ?
Faut-il une raison ?
Cela dépend de ce qui cause votre ennui. D'abord, vous êtes la souveraine.
J'aime à vous l'entendre dire.
Vous êtes partie en Terre Sainte. Là, vous avez dû contempler de fort singulières choses que je n'ai vues qu'en rêve seulement.
Est-ce que vous rêvez souvent, Henri Plantagenet ?
Très souvent.
Et de quoi rêvez-vous ?
Je rêve que je tiens le monde entier dans la main que voici.
La couronne du diable, une saga médiévale filmée en 1981 avec Aliénor d'Aquitaine et Henri. Alors Henri Plantagenet, donc on rappelle qu'Aliénor était reine de France avant de devenir reine d'Angleterre, ce qui est un destin absolument incroyable. Cathy Bernard, on peut le dire aussi, l'intérêt porté par Aliénor sur les troubadours fait que ces troubadours sont aujourd'hui ce qu'ils sont, au sens où ils ont besoin, pas tellement de mécènes, mais d'espace pour exprimer leur art. Et Aliénor d'Aquitaine leur a offert cet espace-là à la cour.
Ce que l'on peut dire, sans risque de trop se tromper, c'est que les cours qu'elle tint avec ou sans Henri II font partie des cours les plus brillantes de son temps. Et donc la cour est cet espace privilégié où les troubadours vont pouvoir s'exprimer et partager leur art. Et donc, évidemment, les statuts sont différents. Je parlais de Cercamont et de Marc Abru tout à l'heure. Bon, pour Cercamont, son statut est un petit peu plus complexe, étant donné les traces que nous avons dans sa poésie, mais pour Marc Abru, il semble très clair qu'il est affilié à des cours en particulier. Donc, il a besoin de personnes pour vivre tout simplement et pour exercer son art. Et parmi ces personnes, il a par exemple un amour, une estime vraiment vraiment très appuyée pour le père d'Aliénor, Guillaume X. Voilà. Et c'est assez notable parce que Marc Abru, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Parfois, il transforme la rage en poésie. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le père d'Aliénor fait partie des rares personnes qui ne subissent pas le courroux de Marc Abru. Donc, oui, Aliénor et son lignage, et Aliénor au temps d'Henri II, au temps de son mariage avec Henri II principalement, ont tenu des cours permettant l'expression de cet art sous diverses modalités. Par exemple, Bertrand de Born, on sait qu'il a été à la cour d'Argentan d'Henri II, mais on ne peut pas comparer le statut de Bertrand de Born au statut de Marc Abreu, voilà, par exemple.
Pour explorer cet univers absolument fascinant d'Aliénor d'Aquitaine, je renvoie à la série du cours de l'histoire. Aliénor d'Aquitaine, une reine pour deux royaumes, et notamment l'émission à laquelle vous aviez participé, Cathy Bernard, Splendeur médiévale, Aliénor d'Aquitaine et les arts. C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Xavier Terraza, dans tout ce que nous évoquons, nous construisons peu à peu notre son des troubadours, parce que nous avons ici des éléments... les textes, la reconstitution de la diction, de la parole, de cette musicalité. Mais il nous faut de la musique jouée par des instruments. Et là aussi, la question des sources se pose.
Voilà, évidemment, c'est une question, enfin pour nous, évidemment, qui est centrale, même si elle n'est pas suffisante. Hein. On a bien compris qu'une fois qu'on a de la musique, ben, y a tout ce qui va autour, quoi. Mais en tout cas, les sources des troubadours, en fait, elles sont disponibles ou elles sont copiées, ou en tout cas, le corpus des sources qui nous sont parvenues date de la moitié du XIIIe siècle, au plus près. Le deuxième quart, on va dire, du XIIIe siècle. Et alors, pour les manuscrits qui comportent de la musique, en fait, on n'en a que quatre. Voilà. Et on a deux chansonniers qui disent occitans, c'est-à-dire qui ne contiennent que des pièces de la lyrique occitane. Et puis, donc, deux autres chansonniers avec quelques pièces. En tout, c'est 270 pièces musicales, à peu près. Hein. Qui sont parvenus pour à peu près 2500, on va dire, poèmes, enfin chansons, quoi.
Avec des partitions, est-ce que l'idée même de partition
alors voilà.
est pertinente?
Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce qu'on trouve en fait dans un manuscrit, on trouve donc parfois le nom, comme vous l'avez évoqué juste avant, le nom du troubadour. La plupart, ce sont en fait des anthologies, hein, donc on a voulu donc rassembler tout un matériau, mais donc parfois 100, 150 ans après. Hein. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions sur lesquelles on pourra revenir. Et donc vous avez le nom, et puis vous avez donc une partition à 4 ou 5 lignes. Donc c'est une portée, hein, une portée de 4 ou 5 lignes. Au début de cette portée, vous avez une lettrine en général. C'est la première lettre du texte qui va être consignée sous la portée. Et le texte qui va être consigné sous cette portée, eh bien, c'est la première strophe donc de la chanson. Voilà. Et ensuite, on va avoir sur ces lignes, on va avoir ce qu'on appelle une clé, c'est-à-dire qu'on vous indique assurément où est le fameux demi-ton de la musique, c'est-à-dire soit le fa, soit le do. Et ensuite, vous avez... la plupart du temps, des notes carrées et qui ne comportent pas, a priori, d'indication, par exemple, de rythme. Voilà, donc c'est ce matériau-là dont on dispose.
C'est-à-dire qu'il y a la même lecture de la musique que l'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, pas exactement la même, on l'entend bien, mais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Ah oui, alors exactement. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une musique qui est quand même très proche de nous, parce que ce do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme dite de Pythagore, donc on est 600 ans avant notre ère. C'est un choix culturel, mais nous, en fait, on évolue toujours, même aujourd'hui, avec les mêmes 7 notes. Voilà. Donc ça, c'est quand même un marqueur très fort. Les troubadours, sont ceux qui ont aussi inventé, du coup, les formes strophiques, c'est-à-dire la chanson. Donc aujourd'hui, on chante encore, effectivement, un peu de la même façon. Voilà. Donc on est vraiment à l'origine de quelque chose qui a toujours cours, quoi.
Avec des histoires portées par ces chansons, parce que il se construit ici peu à peu une vraie narration avec un personnage que vous avez cité plusieurs fois, hein, Cathy Bernard, ce Marc Abreu, et j'aime beaucoup ce personnage qui est peut-être le pseudonyme de quelqu'un avec tant de mystère, mais en tout cas, nous savons qu'une personne qui se faisait appeler Marc Abreu ou qui était appelé Marc Abreu à un moment donné au XIIe siècle chantait. Il chantait quel type d'histoire?
Alors Marc Abreu, il sembla collectionner aussi les surnoms. Figurez-vous qu'avant de s'appeler Marc Abreu, il aurait porté le surnom de Panne Perdute, qui veut dire pain perdu en occitan. Donc c'est quelqu'un qui va à contre-courant si l'on se fonde sur l'idée que nous avons d'un troubadour, à savoir quelqu'un qui chante la fine amour, l'amour fin, l'amour vrai, l'amour pur, l'amour autrement connu aujourd'hui avec le qualificatif de courtois. C'est pas que Marc Habru ne le chante pas, c'est qu'il semble imposer à cette expression sa définition. Une définition très morale où la chair est exclue. L'adultère, pour lui, est à bannir. Et c'est au fondement, normalement, de la fine amour, l'adultère, en fait. Si on se fonde sur les chansons de Guillaume et sur d'autres chansons. Et lui, ce qu'il veut, c'est que les lignages ne soient pas corrompus. Donc, il hurle de façon à montrer à la noblesse les valeurs qu'elle doit conserver. Et pour lui, ces valeurs-là sont très morales. Et donc, c'est quelqu'un qui a en fait une très haute idée de la noblesse et qui déplore de la voir ainsi s'abaisser, voilà, de son point de vue à lui. Mais ce n'est pas que ça, Marc Habru. Parfois, c'est des envolées lyriques extraordinaires, notamment avec une gestion du paysage, de la nature, qui est formidable. Je pense notamment à une chanson qui n'est pas dans le livre, mais qui m'a beaucoup impressionnée, où il transforme le monde en un arbre. Alors, on va se dire, un arbre, c'est forcément, ça a pour nous tous une valeur positive. Eh bien non, c'est l'arbre du mal. Et en fait, il va montrer comment cet arbre, par ses branches et par ses racines, envahit tout, parce que la noblesse qui vit dans cet arbre ne vit pas selon les valeurs de la noblesse. Donc, c'est quelqu'un de très, très fort. Et après, il y a aussi, chez Marc Habru, des chansons plus légères. Et c'est celle que nous avons choisie dans l'ouvrage. C'est la pastourelle. Donc, la pastourelle, elle est délicieuse, cette pastourelle. Parce que dans d'autres chansons, il va vraiment critiquer la dame, critiquer la femme, critiquer l'homme. Là, c'est autre chose. On a affaire à une bergère très intelligente, avec une gestion du langage très appuyé, très avancé même, face à un chevalier qui, c'est le cas dans souvent beaucoup de pastourelles, hein, qui veut ses faveurs et qui insiste lourdement, pour ne pas dire davantage, pour les obtenir, ses faveurs. Mais en fait, par un jeu subtil de dialogue, d'échange, on va avoir cette bergère, cette pastour, donc en occitan, eh bien, envoyer balader, il n'y a pas d'autre expression, le chevalier, le plus joliment qui soit. Et finalement, on se rend compte que c'est la dame, la femme du peuple qui possède plus d'intelligence et plus de vocabulaire que le chevalier, celui qui se fait passer pour tel.
Don, oh, ma segondretura, cerca forza folatura. Curtis, curtis aventura, e il bilans am la vilaina. E mans locks paisens freitura, cam noies garda mesura. So dis la gens anciaina.
Bella de vostra figura, non vi altra più sta fura, ni des un cor più strefaina.
Dom Luca vets nous aura, che tals vaden la pensura, cautre ne spera la maina.
L'autre jour, tout près d'une haie, Marc Habru, et ici l'interprétation, c'est Margot Zubeldia et vous, Xavier Terraza, oui. Avec une harpe derrière.
Oui, c'est ça, exactement, c'est Margot, oui, qui joue de la harpe, en effet.
Quels sont les instruments utilisés pour ces troubadours? Alors, déjà, sont-ils eux-mêmes musiciens? Utilisent-ils leurs instruments ou sont-ils accompagnés?
Je vous remercie de votre question. C'est la question. C'est l'une des questions. Hein. Visiblement, il y en a beaucoup. En fait, on n'a pas de mode d'emploi, hein, pour les troubadours. On n'a pas de mode d'emploi pour l'interprétation. Alors, on a commencé à l'évoquer. Et on ne sait pas s'ils jouaient ou pas un instrument, ou peut-être ceux qui interprétaient leur chanson. c'est-à-dire des jongleurs, le faisaient. Cependant, on a quand même de l'iconographie, hein, on a des représentations, notamment dans les miniatures hein, qu'on peut retrouver dans certaines anthologies. Et on voit certains, mais si on fait un pourcentage, c'est très peu quand même, effectivement. Donc on peut voir une harpe, une citole, une flûte et tambour, enfin voilà, divers instruments. Mais encore la question, c'est que ces manuscrits datent de la fin du XIIIe, début XIVe, donc que représente-t-on quand on représente cela? Est-ce qu'on illustre la vida, ce dont a parlé Cathy? Est-ce qu'on illustre, donc on lui met un instrument entre les mains, peut-être pour dire qu'il est jongleur ou pas? Voilà, donc on n'a pas tellement de... on n'a pas de certitude. Par contre, ce qu'on a, c'est quand même tout un... Donc des représentations, notamment dans la sculpture romane, où on voit clairement des jongleurs avec des instruments. Donc ça semblerait étonnant qu'on ne puisse pas les utiliser. Mais les écoles sont voilà, enfin il y a des chercheurs qui pour certains disent que c'est pas possible, que la seule relation entre la poésie et la musique est déjà très subtile et se suffit à elle-même. Et puis d'autres qui veulent un petit peu progresser, peut-être vers un accompagnement, vers une mise en consonance, un contrepoint, quoi.
Les instruments eux-mêmes sont-ils bien identifiés?
Alors, ça aussi, c'est l'objet, évidemment, de recherche. On appelle ça l'archéo... ou l'organologie, ou l'archéomusicologie, entre nous. C'est-à-dire qu'on a donc un corpus assez important de représentations d'instruments, et bien à partir de ces représentations, mais également à partir des écrits parfois, à partir évidemment du contexte musicologique quand il y en a, c'est-à-dire bah, par exemple quelle note, pourquoi faire, hein. À partir de tout ça, des connaissances des techniques, et puis bien sûr après on fait appel donc à un artisan, un facteur, et bien on va réaliser ces instruments. Alors parfois on essaye, ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, et puis 10 ans plus tard, et bien on s'aperçoit que ce qu'on pensait être bon, peut-être que d'autres ont progressé différemment et puis nous ont permis de prendre conscience de certaines problématiques. Voilà, donc c'est quelque chose qui évolue hein, depuis, on va dire, depuis les années 60, je parle du 20e siècle.
Avec ici cette longue histoire, et vous avez raison, vous avez été Raza de la rappeler, cette histoire de la recherche des sons des troubadours, parce que la volonté de retrouver la manière dont étaient prononcés tous ces mots, les instruments de musique qui pouvaient l'accompagner, c'est une histoire longue et on pourrait même la porter au XIXe siècle avec cette fascination pour le Moyen-Âge qu'il y avait et tant de tentatives. Vous venez d'évoquer les années 1960, nous sommes juste avant 1959.
Grande peine m'est advenue pour un chevalier que j'ai eu. Je veux qu'on sache en tous les temps l'excès d'amour que lui portait. À présent me voilà trahi pour ne lui point donner d'amour, quand je fus en grande folie, au lit comme toute vêtue. Comme voudrait mon chevalier tenir un soir en mes bras nus, il en serait comblé de joie s'il lui servait de doux coussin. Car plus en suis énamourée, qu'un jour, flore de blanches fleurs, mon cœur lui donne, et mon amour, mon âme, mes yeux et ma vie. Belle amie, charmante et plaisant, qu'un jour vous ai en mon pouvoir, et que couche avec vous un soir, en vous donnant baiser d'amour. Sachez quel grand plaisir j'aurai de vous, en place de mari. Pourvu que me donniez promesse de tout faire à mon bon vouloir.
Marguerite Perrin, en 1959, donc, qui interpréta un poème de la comtesse de Die. Cathy Bernard, quand on entend ici, il y a une patine du temps, hein, et nous savons bien que la recherche a fait évoluer les choses, même si cela demeure très beau. Et c'est un beau moment, mais tous ces éléments font que aujourd'hui, le temps a passé, il y a d'autres connaissances. C'est une science qui ne cesse de vivre et de progresser. Et ce que vous proposez aujourd'hui, Troubadours d'Aliénor, c'est une étape encore, mais nous entendons presque la progression de la recherche en comparaison des sons. Et là, c'est très beau, mais nous avons une déclamation qui est un peu française, dirons-nous.
Oui. C'est une des chansons les plus connues, la Troubaïrite, donc la troubadour, la femme troubadour qui est la comtesse de Die. Et elle est, malgré, bien sûr, le temps qui a passé, la modernité des idées me semble quand même là, hein, malgré tout. Et c'est un peu la magie des textes des troubadours, c'est-à-dire que, évidemment, qu'ils sont datés. D'autant quand ils font référence à des faits historiques précis qui leur sont contemporains. Mais certaines de leurs idées, comme par exemple les chants de Guillaume IX d'Aquitaine, gardent quelque chose d'intemporel parce que finalement l'idée qu'on se fait de l'amour ressemble assez à l'idée de l'amour qu'ils chantent finalement. Donc aller vers eux et vers leurs idées, c'est finalement aller vers nous, quelle que soit l'époque. Et donc, on traduit cette matière avec les moyens de son temps. Et c'est pour ça que c'est une matière qui ne cesse d'être enrichie par les études, parce que justement, chacun et chaque époque y trouve quelque chose.
Xavier Terraza, vous souscrivez à cet écho contemporain qu'il peut y avoir du chant des troubadours?
Oui, de toute manière, on a toujours ce double souci, on va dire, de devoir à la fois donc se baser sur ce qu'on connaît, ce qu'on croit connaître, ce qu'on essaye de connaître, et puis à un moment, eh bien, il faut interpréter, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est un travail de l'artiste. Pour qui faisons-nous cela? Eh bien, pour les oreilles contemporaines. Donc, par exemple, une considération tout à fait prosaïque, mais dans le disque, par exemple, il y a certaines pièces que l'on a tronquées, c'est-à-dire pour lesquelles on a enlevé quelques strophes. Parce que l'écoute contemporaine, pour un texte qu'on ne comprend pas forcément, lorsqu'elle dure 10 minutes, ça peut commencer à être un petit peu long. Il y a certaines formes, par contre, qu'on n'a pas du tout tronquées parce que ça faisait vraiment partie de l'identité ou de la cohérence donc poétique du texte. Mais on s'est permis cela aussi parce que entre différentes concordances, c'est-à-dire donc le même texte qu'on va retrouver dans différents manuscrits, eh bien, il n'y a pas forcément le même nombre de strophes et elles sont pas forcément dans le même ordre. Donc, on s'est permis cela. Mais oui, par exemple, enfin, juste une anecdote, mais moi, quand j'ai commencé, c'était juste après les troubadours, à faire de la musique du Moyen-Âge, du répertoire du Moyen-Âge, les concerts duraient 1h30. Aujourd'hui, un concert, ça dure 1 heure, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ça a été, dans l'une des motivations qui a été de s'occuper justement de ce répertoire, c'était, enfin, pour ma part, hein, c'était de enfin prendre le temps, justement. Prendre le temps dans un monde où tout va vite, où, là aussi c'est très pratique, mais les musiciens et les collègues qui nous écoutent savent exactement de quoi je parle, c'est-à-dire quand on doit faire un programme, on le fait avec un minimum de répétition, et puis tout ça va très vite, on lit des partitions, etc. Sauf que les troubadours, c'est beaucoup plus exigeant que ça.
Et c'est cette exigence-là qu'il faut mettre en avant, cette exigence des mots, de la manière de porter les mots et de la musique qui accompagne ces mots. Cathy Bernard, c'est comme une réponse à la vitesse qui nous est imposée aujourd'hui de se plonger un temps dans la musique. Et vous avez insisté sur les idées des troubadours, ça fait du bien aussi.
Oui, ça fait du bien parce que c'est bien beau d'aller vite, mais pour aller où? Et là, on a l'impression d'aller vraiment quelque part, ou en tout cas d'aller à la recherche d'un pan de vérité. Et cette vérité, même si elle évolue, même si elle n'est pas gravée sur la pierre, il y a des choses qui demeurent, mais des choses qui changent, hein, parce qu'une découverte d'un chercheur va faire évoluer les choses. Il y a tout de même le sentiment d'être là où il faut quand on veut être médiéviste, c'est-à-dire que... Et quand on aime la poésie aussi, le raffinement des mots et le raffinement des idées vont de pair. C'est-à-dire que dès les premiers troubadours, on a vraiment le sentiment d'une grande exigence poétique. Et au-delà de la musique, l'agencement des mots, c'est déjà une musique. Et les rimes qui sont là dans les manuscrits nous aident en fait à sentir, à toucher du doigt cette exigence que chacun d'entre eux a eue.
Cathy Bernard, vous avez saisi votre livre « Troubadours d'Aliénor », vous l'avez ouvert à quelle page ?
À la page de Marc Cabru, encore lui.
Marc Cabru, sachant que dans ces « Troubadours d'Aliénor », ils sont nombreux. Des hommes, des femmes aussi, avec le temps qu'il faut prendre pour savourer cette musique.
Ai si sempre esse nungla, muscose leis cum lescorse la vergia, qu'il mes de joitur de palais en chambra, e non am tan frai repare ni uncle, quem paradis. Naura duble joi marma, seja nusons per ben amar la intra. Nar nautra mezzum chantar dungle, am gratius che dessa vergia l'arma, sum desirat chi prese in chambra intra.
Le troubadour, c'est Arnaud Daniel. L'interprète, c'est David de Zubeldia. Dites-nous, Xavier Teresa, vous ne nous en voulez pas d'avoir passé simplement ici qu'un morceau parce qu'il y a une construction qui fait que l'ensemble fonctionne avec une cohérence. Mais puisque nous voulons vous écouter dans le cours de l'histoire, bah, on a besoin de ne passer qu'un extrait.
Flatteur. Oui, en effet. Alors évidemment, il faudrait parler de cette forme qui a été appelée sextine. Mais ça, c'est Cathy Bernard qui, évidemment, est très bien est la spécialiste de cela. Mais effectivement, c'est une forme poétique en soi. Donc là, évidemment, pour cette plage-là, pour cette pièce-là, il n'était pas question, effectivement, de la tronquer.
Bah oui, c'est ça, parce que ici, il y a une forme sextine, ça veut dire qu'il y a une construction qui respecte un ordre, un rythme.
Exactement. Donc le terme sextine a été accolé après à la chanson d'Arnaud Daniel. Lui, il emploie le terme chanson pour désigner son œuvre. C'est en partie cette chanson qui, sans doute, a fait dire de lui qu'il était un forgeron. Du parler maternel, c'est Dante qui dit ça. Alors, c'est une chanson donc qui est composée comme une formule mathématique. Bon, toutes les chansons, mais celle-ci particulièrement. Donc, nous avons 6 strophes de 6 vers chacune. Et à la fin des vers, nous avons des mots rimes. Ces mots rimes sont des mots qui peuvent paraître inattendus. On a intra, entre, ungla, ongle, arma, lame, vergia, la verge, l'uncle, l'oncle, la chambra, la chambre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ces mots reviennent, donc dans chaque strophe, mais à une place différente. Et cette place différente n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un calcul mathématique très, très ciselé. Et c'est vraiment un tour de force. Et c'est ce qui, en grande partie, fait encore aujourd'hui la célébrité d'Arnaud Daniel.
Arnaud Daniel, c'est absolument magnifique, hein, cette réflexion dans la construction. Est-ce que ici, Xavier Teresa, il y a un support pour placer la musique sur ces paroles. On l'a bien dit, hein, les partitions ne sont pas systématiques et ces partitions, il faut les réfléchir. La notion d'interprétation est là aussi. La reconstitution, c'est difficile à utiliser. C'est utile, cette rythmique imposée par les mots pour reconstruire une musique?
Oui, selon certains chercheurs, c'est effectivement c'est l'alpha et l'oméga. Il y en a d'autres, ça a été l'objet de luttes au début du XXe siècle entre certains chercheurs qui voulaient en fait associer une forme métrique. Donc des modes rythmiques en fait, hein, à toutes les chansons. Et c'est pour ça qu'on trouve encore aujourd'hui dans les transcriptions que l'on peut trouver, transcriptions donc en notation moderne, eh bien on trouve ces chansons avec du rythme. Voilà. D'autres disent qu'il faut absolument pas, etc., etc. Voilà. En sachant, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'on a une seule... On a une forme musicale, donc une seule forme musicale, la portée sous laquelle est écrite la première strophe, et puis ensuite on voit les strophes qui sont donc écrites à suivre. Ce qui veut dire que quand on réinterprète pour la deuxième strophe, par exemple, la musique, que fait-on ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on met les mêmes ornementations ? Est-ce qu'on met la même intention ? Etc., etc. Donc cette forme musicale, on le voit quand même assez souvent, a été associée évidemment à la forme poétique, avec certaines césures, avec ce qu'on appelle des cadences, c'est-à-dire des fins de phrases, etc., qui sont remarquables. Mais ensuite, voilà, c'est un matériau donné. Je rappelle encore une fois que c'est un matériau qui est donné, là par exemple pour Arnaud Daniel, c'est peut-être un siècle après. Donc voilà. Et donc, lorsqu'on a une partition, nous, on ne sait pas si c'est l'expression du troubadour, si c'est l'expression du jongleur, avec toute la transmission orale, mais forcément la réappropriation et forcément la déformation ou l'enrichissement, selon de quel côté on veut bien regarder les choses. Ou est-ce que c'est le scribe qui a écrit cela et qui... Peut-être avait-il un autre manuscrit sous les yeux, peut-être connaissait-il d'oreille, ou peut-être a-t-il eu envie d'écrire, quoi. Et même instrument. De la musique.
Oui, parce que tout est possible à partir de là. Et voilà. L'idée même de savoir quel instrument pouvait être utilisé pour accompagner telle chanson, parce qu'il y en a plusieurs des instruments, vous nous en avez cité quelques-uns, notamment cette flûte avec tambour, c'est comme ça qu'on dit, c'est quoi
Oui, c'est l'association d'une flûte harmonique. C'est une flûte en général qui est étroite et qui n'a que 2, 3 ou 4 trous, ok. Et quand on souffle un petit peu plus fort dedans, en fait, on obtient ce qu'on appelle donc des harmoniques. C'est-à-dire, ces harmoniques, ce sont les notes qui constituent le son. Lorsque vous entendez un son, en fait, vous entendez une superposition de vibrations, mais qui sont toutes proportionnelles les unes aux autres. Et alors, toutes ces notions, eh bien, il les maîtrise déjà au Moyen-Âge, il les maîtrise déjà dans l'Antiquité. Et c'est pour cela, il faut quand même rappeler le contexte, que la musique est considérée comme une science, hein,
et oui.
Au Moyen-Âge, et elle est enseignée dans le quadrivium, au même titre que la géométrie, l'arithmétique et l'astronomie.
Cette flûte, c'est celle que vous avez entre les mains ?
Oui, ça peut être celle-ci, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une petite flûte à bec, pour la description radio, et donc qui est très étroite, si bien que lorsqu'on souffle une fois plus fort, on va obtenir donc une octave. Si on souffle un petit peu plus fort, on va obtenir une quinte, un peu plus fort, une quarte, etc. Enfin, les musiciens comprendront.
Voilà. Vous soufflez dedans ?
Ah ben, on va faire ça, oui. Alors, comme on en joue avec une main, bien entendu, on peut associer le tambour, la cloche, le triangle, etc. avec...
Une flûte que vous jouez avec une main, je trouve ça sensationnel de saisir pourquoi flûte avec tambour, parce que l'autre main est disponible pour faire autre chose, alors que d'autres flûtes avec beaucoup plus de trous, oui, se jouent à deux mains.
Oui, voilà, c'est les flûtes. Alors, soit on dit les flûtes à bloc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les flûtes à bec. Hein. Donc, on a créé, sur l'une des extrémités du tube, on a créé ce qu'on appelle un sifflet, c'est-à-dire qu'on a inséré un bouchon, on a laissé un petit canal pour l'air. Et là où l'air, lorsqu'on insuffle, va arriver, on a creusé une petite fenêtre. Eh bien, cet air pulsé va venir sur la partie très fine et la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur va créer une vibration. Donc on vient de créer un sifflet. Et ensuite, eh bien, on fait des trous sur cette flûte. Alors là, ce que je fais entendre, ce sont des flûtes, on dit à perce naturelle, puisqu'il semblerait qu'avant le XIVe siècle, on ait perdu donc cette capacité à perforer des tubes dans du bois dur. Donc perce naturelle, ici c'est du sureau par exemple. Voilà, il suffit d'enlever la pulpe et on obtient un tube. Donc ensuite, le tube est perforé de trous, et plus on va boucher de trous, plus on va allonger le tube, et on sait que plus un instrument est grand, plus il est grave.
Et donc vous pouvez le faire très grave ou beaucoup moins grave.
Voilà.
Xavier Terraza, dans tous les instruments utilisés, et cette discipline est absolument sensationnelle, hein, le travail sur l'histoire de ces instruments, l'organologie, il y a ces flûtes que nous comprenons, puisque ce sont les flûtes à bec classiques. Nous avons tous croisé à l'école à un moment une flûte à bec, ouais. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais il y a d'autres instruments alors, dont les noms évoquent quelque chose, vielle, etc. Vous en avez un autre, alors quel est-il cet autre instrument?
Alors, ici, j'ai apporté donc un psaltérion.
Ah ouais, voilà, le nom, moi, je ne l'avais pas encore. C'est quoi cet instrument?
Alors, c'est un instrument... Alors, au départ, on peut estimer que c'est une... c'est un prolongement de ce qu'on appelle le monocorde, qui est un instrument qui permet justement d'étudier. C'est pas un instrument de musique, c'est vraiment un instrument d'étude. Vous avez une seule corde et puis vous avez un chevalet mobile. Et puis, si vous divisez la corde en deux, par exemple, vous obtenez l'octave. Si vous la divisez en trois et vous en prenez deux tiers, vous obtenez la quinte. Hein, donc toutes ces proportions qui sont donc à la base. Des consonances dites parfaites qui composent en fait la gamme donc dite de Pythagore qu'on utilise toujours aujourd'hui. Voilà. Eh bien, avec cet instrument, on a donc on peut plus appeler monocorde puisqu'il y a 30 cordes ici. Donc forcément, eh bien, on a donc une forme, c'est dans la famille des sitars sur table, et donc on a une caisse de résonance. Il faut imaginer donc une boîte parallépipédique. Ici, celui-ci, il y a des coins qui ont été enlevés. Donc, Pretorius, au début du XVIIe siècle, parle de groin de porc, en forme de groin de porc, voilà. Ça, c'est pour la bonne bouche. Et puis ensuite, eh bien, on a tendu donc des cordes ici pour cette restitution, d'après donc une sculpture c'est du porche sud de la cathédrale de Chartres, eh bien, on a monté l'instrument en corde métallique.
Ça donne quel son ? Cet instrument, en soi, déjà, est sublime, hein, d'équilibre.
Et alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, on a des cordes grandes et qui deviennent de plus en plus petites. Voilà, donc on a la même section de cordes, mais là, évidemment, on peut constater des rapports de proportions. Et ça donne ça. Voilà, chaque corde est en fait doublée. Voilà. Thank you.
Xavier Terraza, merci vivement à vous. Vous avez vu Cathy Bernard, comme il y a tout de suite quelque chose de magique pour moi qui ne maîtrise pas d'instrument de musique, voir un musicien pratiquer, tout de suite il y a de la magie. Mais cette magie-là, ça nous conduit aussi dans le temps, parce que au moment de réfléchir à ce son des troubadours, il y a quelque chose de particulier. C'est cette temporalité autre qui fait que aujourd'hui, l'écho est évident, c'est ce rapport au temps qui a été bouleversé il y a 150, 200 ans, et c'est retrouver des rythmes différents, rythmes musicaux et peut-être rythmes de la vie, peut-être aussi un rapport au monde.
Et certainement, en vous écoutant, je pense justement à Guillaume d'Aquitaine et au début de la chanson, quand on a entendu tout à l'heure, Farai une vers et drette nien, nun er de mi ni d'autre agen, nun er d'amour ni de juven ni de renau, que nan fut troubat sen dourmen, sus une chivau. C'est un chant dont il dit qu'il fut trouvé, donc composé, en dormant sur un cheval. Déjà, rien que le rythme du cheval nous fait penser au rythme qui était le leur et qui est bien différent du nôtre. Hein. C'est toute une façon d'appréhender le temps et puis d'appréhender l'utilité du temps qui est différente. Et là, il joue avec, puisqu'il se dit en train de composer en dormant sur un cheval. Donc, c'est encore une autre temporalité. Mais c'est bien parce que ça nous amène peut-être à quelque chose qui est plus proche de l'essentiel. En tout cas, je ne crois pas qu'on puisse composer de telles chansons rapidement. Voilà.
Au rythme d'un cheval.
Et le rythme d'un cheval, ben, il est divers, lui aussi. Il peut être au pas, au trot, au galop.
Xavier Terraza, il y a ici comme une forme de réponse à l'accélération du temps à laquelle nous assistons au moment d'étudier, de travailler et d'offrir cette musique des troubadours.
Oui, bah c'était vraiment le souhait. Je le redis, mais plus un matériau est, on va dire, plus il est rudimentaire, et c'est le cas de ces partitions, hein, quand on les regarde de l'extérieur, on se dit, bon, bah, d'accord, il y a trois notes, mais c'est impossible à jouer en le lisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut en fait l'apprendre, il faut le malaxer, il faut comprendre cette poésie. D'ailleurs, simplement souligner qu'aujourd'hui, toutes ces sources, elles sont en fait en ligne, hein. Donc ça c'est vraiment une vraie richesse, hein. Depuis une quinzaine d'années, là ça a vraiment fleuri. Donc elles sont en ligne, donc ça pour un musicien c'est pas très compliqué à lire, à déchiffrer. Mais par contre la grande difficulté c'est toujours le texte. Et j'aimerais juste préciser que dans le disque et dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, on entend le cheval pour l'histoire qui s'appelle Katia, mais c'est le hasard, hein, bien sûr. Non, mais il fallait le dire. Voilà. Et on entend parce qu'on a souhaité enregistrer effectivement dans des cadres le plus possible naturels. Voilà.
C'est ça, cette reconstitution de paysages sonores. Troubadours d'Aliénor, c'est votre ouvrage. Cathy Bernard, Xavier Terraza. Ici, il y a l'ouvrage, il y a le disque, il y a la musique, il y a l'histoire, il y a cette poésie qui nous plaît tant. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Cathy Bernard, je rappelle, hein, Nous, Aliénor, c'est aussi votre ouvrage, parce que faut partir sans cesse à la rencontre d'Aliénor d'Aquitaine. Merci beaucoup à tous les deux.
Et bien, c'était avec plaisir.
Merci beaucoup.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, toujours plaisir d'archives. La mémoire dans le nez, déambulation olfactive à l'osmothèque.
Un jour, les parfums de France décidèrent de créer une symphonie de parfums. Vinrent au rendez-vous les parfums tendres, les parfums légers, les parfums enveloppants, accoururent également les eaux de toilette.
Comment archiver les odeurs? Comment archiver les parfums? Ben, prochain épisode dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Émission préparée par Solène Roy, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.